La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Alors, au moment de programmer le thème de cette émission, il y a environ un mois, le thème étant « Racisme et discrimination au Québec », je n'avais évidemment aucune idée des terribles événements qui ont frappé le Québec et Québec hier soir avec un acte terroriste contre la communauté musulmane, un acte bouleversant qui nous rappelle que même dans les sociétés les plus pacifiées, les plus civilisées, les plus articulées, il y a toujours dans les marges des éléments haineux qui sont manifestement prêts à passer aux actes et qui entretiennent des fantasmes de guerre civile et manifestement dans ces moments de guerre raciale ou de guerre religieuse. Alors, nous aborderons évidemment cette question aujourd'hui, puisque les circonstances nous l'imposent. Nous tâcherons, cela dit, de ne pas nous y enfermer, parce que le thème de base à l'origine de l'émission, c'était tout le débat qui entoure la question du racisme systémique au Québec, la commission qu'on devrait créer ou non autour de ces questions. Donc nous allons évidemment embrasser plus large, mais il serait de notre part irresponsable de ne pas commencer avec une réflexion de quelques minutes sur l'attentat terroriste d'hier. Alors, pour en parler aujourd'hui, par ailleurs, je reçois Judith Lucier, chroniqueuse au journal Métro et militante féministe. Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Bilodeau, qui est travailleur social et collaborateur à la revue L'Action nationale. Bonjour.
Bon matin, merci pour l'invitation. En passant, je suis pas travailleur social, je suis candidat à la maîtrise.
Pardonnez mon imprécision et je vous remercie pour votre correction. Alors, je commence avec vous, Judith Lucier. Au-delà de l'horreur que nous ressentons tous, de l'effroi, que vous inspire comme réflexion l'attentat dont nous avons été témoins hier à Québec?
Bien, c'est sûr qu'il est très tôt pour en tirer des analyses approfondies, mais il y a certainement, c'est quand même un événement qui s'inscrit pas dans rien, à mon avis. C'est une évidence pour moi qu'il y a un mouvement de fond haineux qui se soulève depuis plusieurs années par des paroles, par des gestes. Bon, on a parlé d'événements isolés par le passé pour décrire, par exemple, des actes de vandalisme qui avaient été commis contre cette mosquée-là, des actes aussi des actes haineux comme, par exemple, une tête de porc avec des menaces devant la porte de la mosquée. Donc, on peut pas parler de... vous avez parlé de individus en marge. Oui, effectivement, ces individus-là sont en marge. C'est les individus qui vont plus loin, mais ils s'inscrivent quand même dans une mouvance qu'on pouvait sentir déjà.
Donc, pour vous, si ces événements sont horribles, ils ne sont pas absolument surprenants?
Non, pour moi, c'est pas... Ben, c'est sûr que c'est surprenant parce que, bon, un acte terroriste contre une mosquée en Amérique du Nord, c'est...
Pardonnez-moi, mais au Québec et à Sainte-Foy en particulier, c'est...
Ça frappe l'imaginaire. Je suis pas complètement... blasé devant ces événements. Je veux dire, je suis quand même étonnée, mais est-ce qu'il faut s'en surprendre? Je suis pas certaine.
Sébastien Bilodeau, pour vous, est-ce qu'il... Parce qu'on s'entendra, je crois, pour dire qu'il s'agit non pas d'un événement d'un pur fou. Là, ce vocabulaire de psychiatrique a manifestement ses limites. On est manifestement devant un acte raciste, devant un acte haineux, devant un acte politique. Mais s'agit-il pour vous d'un acte qui était annoncé par un contexte ou s'agit-il d'une frappe de la part d'un mouvement groupuscule, d'une mouvance groupusculaire qui parvient par ailleurs à semer la mort parmi nous?
Ben, écoutez, moi, je pense avec l'élection inattendue de Donald Trump, j'ai l'impression qu'on avance face à un brouillard opaque, on ne voit pas ce que nous cache l'avenir immédiat. Et c'est inquiétant, mais il y avait peut-être déjà des signes que ça allait finir par arriver, qu'effectivement, oui, il existe des groupuscules haineux, de tendance racialiste et autres, islamophobiques, puis que peut-être que oui, ça s'en venait. Mais je pense qu'il faut aussi éviter la tentation de l'amalgame, tout comme on doit l'éviter quand c'est un geste haineux, violent, meurtrier posé par une personne de confession musulmane. Je pense aussi qu'il faut faire attention à faire des amalgames de...
Mais on n'en fait pas des amalgames. Non, on n'est pas en train de dire que tous les Blancs sont comme ça puis que tous les Blancs devraient dénoncer ces gestes-là, se dissocier de ces gestes-là.
Judith, je suis pas en train de dire que l'amalgame a été fait. Je mets une mise en garde face à l'avenir.
J'y vais de la mienne.
disant que je pense qu'il faut aussi éviter la tentation de généraliser, de donner, de faire une attention au lien qu'on va tracer entre le geste crapuleux meurtrier qui a été posé hier soir et beaucoup d'autres mouvements politiques et nationalistes et autres qu'il y a au Québec et ailleurs dans le monde.
Alors, je développe encore un peu néanmoins sur cette question. Évidemment, on peut en dire bien peu de choses parce que les faits nous manquent. Donc, nous spéculons dans le brouillard, pour le dire, d'une image qui témoigne de notre rapport de précision aux événements. Il n'en demeure pas moins. Quand on regarde ça sur le traitement par les médias sociaux, hein, qui est aujourd'hui presque la première nouvelle lorsqu'il y a un événement, c'est de voir ce qu'en font les médias sociaux. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a la tentation d'un côté ou de l'autre d'immédiatement appliquer une grille politique aux événements? C'est-à-dire, il y a un assassin, en fait pire que ça, il y a deux assassins, c'est-à-dire c'est ce qui discrédite immédiatement la thèse psychiatrique en un sens, c'est-à-dire c'est un coup organisé. Mm-hmm. Bon, mais la tentation ensuite de dire qui est le vrai coupable, ce sont les radios de Québec, ce sont les chroniqueurs-ci, c'est le débat sur la charte des valeurs, c'est Hérouville, j'ai même lu hier que... Donc, est-ce qu'il n'y a pas une tentation, quand Sébastien Bilodeau disait il y a la tentation de l'amalgame, est-ce que l'amalgame, ça consiste pas à tracer une espèce de point qui va de André Drouin d'Hérouville jusqu'à l'assassin d'hier soir?
Et je pense que ce serait exagéré d'y aller d'une théorie de cause à effet aussi directe. Cependant, c'est difficile de ne pas politiser cette chose-là quand ça fait des années qu'on a un discours sur les immigrants, sur les musulmans, sur puis un discours dans lequel on dit ben que ces gens-là ne s'intègrent pas, qu'ils sont qui constituent une forme de menace, que avant de les intégrer, faudrait d'abord intégrer nos travailleurs. Il y a un discours qui sans être lié de manière causale aussi directe fomente quelque chose. Nourrit quelque chose chez des individus qui interceptent ces pensées-là et en font bien ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent avec leurs moyens parfois limités. Donc, je pense que même si dans les discours autour de la charte, il y en avait qui étaient carrément racistes, mais il y en avait qui tout en voulant être nuancés, pouvait être interprété d'une manière à fomenter ce genre de haine-là.
Donc, on pourrait dire que même si nous sommes ici devant un acte extrême, selon vous, entre la critique des accommodements raisonnables, la charte des valeurs...
Mais cet acte extrême-là ne peut pas survenir sans le climat, sans le discours qui anti-musulman qui a été alimenté dans les derniers années.
La possibilité, je vous relance là-dessus, qu'il s'agisse appelons ça d'une mouvance groupusculaire et fanatisé qui décide de passer aux actes, c'est une hypothèse que vous laissez de côté dans les circonstances? C'est-à-dire, on n'est pas ici devant qui représenterait la frange extrême d'une colère plus large, d'une crise plus large, mais plutôt devant un courant idéologique qui ne représente finalement que lui-même, c'est-à-dire la tentation racialiste, la tentation de la guerre raciale, la tentation de combattre, imaginons l'horrible formule, combattre l'islamisme en tuant un musulman à la fois. Il y a quelque chose d'abject, d'inimaginable dans le langage politique québécois là-dedans. On se retrouve avec un groupuscule fanatisé, extrémiste, radical, utilisons tout le vocabulaire qu'il faut, de l'extrême droite très certainement, mais pour vous, d'une manière, il est connecté de près ou de loin à la culture politique québécoise des dernières années.
Mais je veux dire, je suis pas certaine de comprendre la nuance dans la question, mais il y a dans les dernières années des politiciens qui ont tenu des discours qui nous ont qui alimentaient une crainte à l'égard des musulmans. De manière très 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 concrète, là, ne serait-ce que de dire on peut cacher des bombes dans des burkinis, ce qui a été dit par Jean-François Lisée pendant sa dernière campagne à la course à la chefferie du PQ. On peut une burqa qui se transformait en flaque de pétrole dans une campagne du PQ. Il y a eu du Bloc québécois. Mes excuses, je suis désolée de l'imprécision. Mais donc il y a eu les musulmans par certains discours politiques ont été constitués comme des menaces à l'identité québécoise, à la sécurité, notamment, bon, on l'a vu cette semaine avec Trump qui ferme la porte aux immigrants de sept pays musulmans. Et, je veux dire, il y a quelque chose dans le discours qui alimente une crainte envers des individus, envers un groupe d'individus qui, dont la majorité est totalement inoffensive, là. La grande majorité.
Sébastien Bilodeau, de la charte des valeurs à l'attentat terroriste d'hier soir. Est-ce que nous sommes devant une commune vague où on doit distinguer clairement ces événements?
Je nuancerais, j'irais plus vers la distinction, pas complète, mais écoutez, ce qu'on voit au Québec depuis plusieurs années, c'est ce qu'on voit ailleurs en Occident aussi, que face à certains symboles musulmans, le voile est l'exemple classique, il y a des réactions négatives, il y a des gens qui ont un malaise face au voile et qui demandent différentes formes de politique liées à ça. On peut dire que c'est légitime ou non. Bon, je pense que ça a déjà été beaucoup débattu, mais il faut prendre acte qu'il y a cette tendance-là, ce désir-là, qui s'incarne au Québec et ailleurs en Occident. Mais maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de formes à ces revendications-là. Je pense que beaucoup de ces formes-là sont non-violentes et légitimes, dans le sens qu'elles ont le droit d'être là et ils ont le droit d'être revendiquées, comme par exemple de demander qu'une employée de l'État ne porte pas un voile, parce qu'après tout, c'est un symbole religieux qui envoie quand même, qui est très visible et que des gens peuvent avoir un malaise face à ça.
Mais je parle, malaise et pourquoi, pour quelle raison? Je veux dire, est-ce que ça, c'est légitime? Est-ce que c'est légitime d'avoir un malaise parce que devant une chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas?
Je pense que le malaise est une réaction humaine parfaitement normale.
Mais est-ce que c'est pas à ce malaise-là qu'il faut s'adresser plutôt qu'à la femme qui l'a...
Ben, vous croyez pas, je me permets de poser la question, vous pensez pas qu'il faut néanmoins distinguer entre la volonté d'encadrer les signes religieux ostentatoires dans l'espace public pour différentes raisons, certaines valables peut-être, d'autres moins, et le fait d'assassiner des gens...
Mais bien sûr, c'est lui qui a parlé d'un malaise.
Non, je m'explique, c'est-à-dire la France, par exemple, a décidé de faire une loi sur les signes religieux ostentatoires.
Mais pour moi, ça alimente le malaise.
Donc pour vous, le fait de se poser des questions pour savoir si l'islam s'intègre bien dans les sociétés occidentales et peut-être constater que cette intégration n'est pas aussi harmonieuse qu'on le souhaiterait, pour vous, ce constat est une forme de carburant pour une crise.
Parce qu'on part de prémisses complètement différentes, vous et moi. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait s'adresser à ce malaise-là. Comment ça se fait qu'il existe et pas l'alimenter par des politiques qui font en sorte qu'on restreint des personnes les plus vulnérables dans des zones de la société où on les... Bon, premièrement, on les empêche de travailler parce qu'ils peuvent pas travailler avec le voile. Donc, on les exclut de lieux sociaux où ils pourraient s'intégrer. Puis après ça, on dit ils s'intègrent pas. Mais après ça, on dit que ça génère un malaise, mais on les voit pas dans les lieux publics.
Vous me corrigerez, mais je ne crois pas que la loi sur les signes religieux ostentatoires ait été passée. Je pense qu'elle a été vaincue. Le débat sur le voile précédait.
Non, mais vous parlez de la France. En France, c'est le cas. Puis je veux dire, non, mais je vais terminer. Mais en France, justement, j'ai l'impression que ces interdictions-là, au lieu, puis on aurait tout à fait l'exemple de pourquoi ne pas faire ça. En fait, ces mesures-là ont créé plus de stigmatisation envers les communautés musulmanes, et cette stigmatisation-là nourrit à son tour une frustration de la part de jeunes qui voient pas qui voient pas d'avenir, qui voient qu'ils pourront pas travailler, qui vont être exclus à l'emploi, au logement. Puis après ça, ben on s'étonne que ces gens-là réagissent avec la violence. Continue, Sébastien Bilodeau.
Sébastien Bilodeau.
J'allais juste dire une note rapide au sujet de la France. Les difficultés interculturelles qu'on voit en France autour des minorités musulmanes, c'est des choses qu'on voit dans d'autres pays d'Occident qui ont des politiques très différentes de celles de la France. Maintenant, quand on parlait plutôt du malaise qu'une personne peut éprouver face à une autre qui porte un voile, on peut aussi voir de l'angle de la personne qui porte le voile qui éprouve un malaise à l'idée de le retirer pendant qu'elle exerce ses fonctions professionnelles. Maintenant, je crois que c'est un débat politique
oui,
qui est très...
Je crois que ce sont des débats très, très, très différents.
Ben, je crois que c'est un débat qui est fondamentalement tragique parce que ça peut être très difficile de trouver spontanément quelque chose qui pourrait satisfaire ces deux personnes-là. mais on n'est pas ici pour trancher ce débat-là, à mon avis, qui est très difficile.
Non,
j'en reviendrai à croire que les personnes qui éprouvent un malaise face au voile, je crois que la plupart sont non-violentes, n'ont pas de haine envers les musulmans. Et la plupart sont horrifiés parce que c'est passé hier soir. Puis je pense qu'il faut faire attention de faire comme si toute personne qui éprouve un malaise face à l'islam...
Mais il n'y a personne qui pense ça en ce moment-là. Il n'y a personne qui... Moi, je n'ai pas dit ça.
Sébastien Bilodeau, terminez votre phrase. Et ensuite, je donnerai la possibilité de répondre.
Il faut faire attention de faire comme si toutes ces personnes-là appartenaient, dans le fond, à une même famille meurtrière. Puis que, dans le fond, la personne qui...
Mais c'est vous qui faites des amalgames. Parce que j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que les discours qui identifient les musulmans comme une menace peuvent effectivement nourrir des esprits tordus qui en viennent à la violence. J'ai pas dit que les gens qui ont un malaise face au voile veulent tuer des musulmans. On exagère.
C'est pas le discours que je vous attribue, Judith, mais je dis quand même que dans votre discours, c'est comme si la défense de la laïcité aurait pu alimenter les meurtriers dans une certaine mesure.
Mais c'est la défense de la laïcité et les discours anti-musulmans qui l'entourent. Quand on dit les femmes en burkini peuvent cacher des bombes, je m'excuse, mais qu'est-ce que ça génère? Ça génère de la peur, ça génère de l'anxiété et de la haine. Ça ne fait qu'identifier. Puis là, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase de Lizzie, mais je veux dire, il l'a quand même dit. Puis
que c'est une phrase qui n'a aucun bon sens.
Mais peut-être que vous en dissocierez, mais cette phrase a été dite par un politicien qui a été élu à la tête de son parti.
Mon Dieu, est-ce que certaines réflexions vous viennent encore à propos de l'événement d'hier où nous nous déplaçons lentement et sans subtilité aucune vers le thème plus large du racisme systémique au Québec?
Oui, puis ça va me faire plaisir de souligner l'ironie du fait que nous sommes trois personnes blanches à parler de ce sujet, mais ça va me faire plaisir quand même de contribuer.
Ah, chère Judith, je note encore une fois votre obsession avec la couleur de la peau des gens. J'ai invité ici deux personnes qui me semblent qualifiées pour parler de ces questions sans prendre la peine de vérifier.
C'est là où je pense que nous ne sommes pas qualifiés.
Je
suis pas certaine que nous soyons qualifiés. Ce racisme-là, nous ne le vivons jamais. Nous pouvons le constater c'est un fait social. Nous pouvons le constater dans des statistiques, mais il y a personne de nous trois ici qui le vit jamais.
Alors, vous me permettrez bien évidemment d'être en désaccord avec vous, ne serait-ce que dans le mode d'invitation des gens à l'émission. J'ai cette habitude ici d'inviter des gens pour ce qu'ils sont individuellement et non pas en tant que des représentants de catégories construites sociologiquement ou statistiquement. Si je vous ai invité, Judith, ce n'est pas parce que vous êtes blanche ou blonde ou femme ou autre chose, mais tout simplement parce que je vous croyais intéressante sur cette question. N'y voyez surtout pas une catégorisation raciale. Voyez-y un compliment.
Oui, mais je pense que des commentateurs comme Haroun Boisy ou Émilie Nicolas aurait été plus intéressant que moi sur le sujet. Je pense qu'ils sont plus qualifiés, mais vous avez refusé les invités.
Vous me permettrez de distinguer entre les invités et ce que je trouve pertinent ou non. Alors, une fois que c'est dit, abordons cette question. Pourquoi est-ce que nous avions prévu une émission sur la question du racisme systémique et de la discrimination au Québec? Depuis quelques mois déjà, circule cette idée en forme de proposition qui voudrait que le Québec mette en place une commission sur le racisme systémique pour soit confirmer qu'il y aurait du racisme systémique et en documenter les effets dans notre société, ou à tout le moins vérifier s'il y a du racisme systémique dans notre société, et si oui, qu'est-ce qu'on entend par là et quels sont ses effets. Chose certaine, un mouvement social et idéologique est parvenu à imposer dans l'espace public cette question qui peut sembler contre-intuitive à plusieurs, qui heurte le commun des mortels qui ne se reconnaît pas dans une telle définition du Québec. Mais Judith Lucier, vous faites partie de celles et de ceux qui croient nécessaire qu'une telle commission soit mise en place. Alors je vous pose une question première, toute simple. Le mot racisme est un mot assez brutal. Qu'est-ce que vous appelez racisme systémique?
Vous dites que ça me fait rire parce que vous dites que le mot racisme est brutal et que cette question heurte certains Québécois. Je m'excuse, mais le racisme est brutal et il heurte.
Oui, mais si on croit que c'est une fausse accusation, vous conviendrez que, parce que puisque nous sommes en démocratie, il est possible, j'imagine, d'avoir plusieurs lectures.
Mais comment on
de la
peut
chose?
Penser que c'est une fausse accusation quand on en a des démonstrations, des preuves statistiques, je veux dire?
Ben, parce que. Alors là, je vous lance la question néanmoins. Je suis ici dans la position de celui qui vous questionne. Je ne me place pas en position de débatteur.
La seule raison pour laquelle je serais pas d'accord avec une commission sur le racisme systémique, c'est que dans mon dans ma lecture des choses, il est déjà confirmé. Il existe déjà, donc c'est sûr qu'on part pas avec les mêmes prix.
Alors, imaginons néanmoins pour un instant que nos auditeurs ne soient pas au courant de chacun des éléments de cette querelle. Et je vous pose la question, vous croyez qu'il y a du racisme systémique? Donc, à cette question, je vous pose, qu'est-ce que le racisme systémique tel que vous l'entendez?
Ben, c'est le racisme systémique comme le sexisme systémique. Je pense que les gens sont heurtés parce qu'ils confondent systémique avec systématique. Je pense que le racisme systémique, c'est qu'on est dans un système où, consciemment ou inconsciemment, mais d'abord inconsciemment, des personnes sont mises à l'écart pour toutes sortes de raisons, en raison de la sonorité de leur nom, en raison de non-équivalence de diplôme, en raison de la couleur de leur peau, en raison des préjugés, et sont mis à l'écart, bon, à l'emploi, sont stigmatisés, sont en plus de difficultés à trouver un logement. De ça va découler toute une série de conséquences sur leur niveau de vie, vont vivre davantage de pauvreté et d'exclusion. Donc, on est dans un système qui, inconsciemment, exclut les personnes pour toutes sortes de raisons qui sont racistes. Mais là, vous allez trouver que c'est exagéré, mais parce que c'est pas un mot qui est grave dont on doit avoir peur. Moi, je pense qu'on a tous quelque chose de raciste. D'ailleurs, ça a été démontré par une étude qui démontre qu'on a tendance à avoir un biais favorable ou défavorable selon le sexe ou l'origine ethnique d'une personne. Et puis ça, vous offrez le test. Je veux dire, même les personnes les plus solidaires de Manon Massa à Amir Kadir échouent le test. La personne est parfaite.
Alors, Sébastien Bilodeau, la notion de racisme en sciences sociales, en philosophie politique, n'est pas une notion autour de laquelle il y a une seule définition. On peut passer aux travaux de Pierre-André Taguieff qui a démonté les usages abusifs du racisme comme concept par l'antiracisme. Est-ce que vous reconnaissez dans la définition que propose Judith Lucier de la question du racisme systémique, est-ce qu'il faut selon vous au Québec une commission sur le racisme systémique et que pensez-vous de cette notion de racisme systémique?
Mon opinion personnelle sur la notion de racisme systémique, opinion aussi informée dans une certaine mesure, c'est qu'il y a un bon côté à toutes ces revendications-là. C'est la question, dans le fond, de l'intégration professionnelle et économique des populations immigrantes et des minorités ethnoculturelles, parce que statistiquement, on voit qu'il y a effectivement un problème des taux de chômage très élevés, de la pauvreté, puis c'est des problèmes très graves auxquels il faut qu'on doit être prêt à combattre. Or, le problème, c'est que ce que j'observe, c'est que quand on regarde les statistiques, j'ai pas tout vu ce qu'il y a au Québec, mais par exemple aux États-Unis, on voit qu'en réalité, les situations de difficultés économiques des minorités ethnoculturelles sont en réalité extrêmement variables selon les origines des communautés ethnoculturelles, selon le contexte, le lieu où elles sont. Et que finalement, on voit qu'en réalité, qu'on est face à plein de micro-phénomènes sociaux qui ont en réalité toutes des variables extrêmement différentes. Et on met ça subitement sous un même chapiteau, la notion de racisme systémique, qu'on se retrouve un peu avec des situations extrêmement complexes où il faut de la nuance, être capable de gérer les choses, les analyser avec finesse. Et là, on apporte un marteau, on dit « OK, on va tout gérer ça comme des clous », puis mon marteau, ça s'appelle le racisme systémique, qui, à mon avis, est une notion aussi abusive, parce que, par exemple, toute cette notion de bien conscient, c'est utilisé comme une espèce de psychanalyse des masses où les gens qui parlent de racisme systémique font comme s'ils connaissaient tous les secrets de l'inconscient du vilain mâle blanc. Puis on cite des études.
C'est
mais
pas moi qui a parlé d'homme blanc, hein, c'est M. Bilodeau.
Oui, je sais.
Vous lui reprocherez ensuite. Moi, je pense qu'on l'est tous racistes.
Mais
j'ignore pour vous, mais quoi qu'il en soit.
Je sais que je caricature un peu le discours que je décris, là, mais je m'en excuse. Mais le problème, ce que j'allais dire, c'est qu'on parle d'études, mais le problème, c'est, je m'excuse, mais j'ai fait un baccalauréat en psychologie où on parlait beaucoup d'études empiriques, d'études en psychologie sociale et toutes ces disciplines-là. Puis souvent, ces études-là ont des résultats très nuancés. Il y a tout plein de « oui, mais ». Puis c'est une science qui est très fragile, puis qu'il faut traiter les données avec beaucoup de modestie, puis de faut être très prudent avec ce qu'on avance. Or, quand on voit les articles au-delà du racisme systémique, je m'excuse, mais c'est des statistiques rotées à coups de matraque, c'est très caricatural, c'est, je veux dire...
C'est drôle parce que récemment, l'été dernier, il y a eu un débat sur une mosquée, puis vous avez vraiment pas été, M. Bilodeau, aussi modeste.
Pardonnez-moi, pouvez-vous faire référence un peu plus...
Oui, il y a eu un débat sur un référendum sur une mosquée à Hunsic. Et vous n'avez pas été très, très modeste par rapport
Excusez-moi, pardonnez simplement parce que moi-même, le souvenir m'échappe.
Il y avait un référendum pour
permettre l'implantation d'une mosquée dans un quartier résidentiel ou commercial.
Résidentiel ou commercial d'Hunsic.
D'accord.
Industriel, je pense. Une zone industrielle d'Hunsic. Et au lendemain de ce référendum-là, il y avait eu une étude, j'aimerais que les gens sachent que je mets des guillemets autour de ce mot-là, où on avait dit que c'est pas vrai que c'était une majorité qui avait décidé pour une minorité, parce que il y avait eu, puis là j'y vais de mémoire, là, mais on avait fait référence à des noms à consonance ethnique. Vous n'avez pas été tout à fait modeste par rapport à cette étude-là. Vous l'avez prise comme telle que telle, comme quelque chose de valide scientifiquement. J'aimerais le rappeler.
Vous faites référence ici, probablement, vous me pardonnerez, une querelle qui échappe à la plupart d'entre nous.
Je suis désolée, mais... je ne pensais pas qu'on allait... Mais c'est parce que si M. Bilodeau veut s'asseoir sur la rigueur des études, j'aimerais qu'on note que cette fois-là, cette étude-là, cette analyse-là n'était pas très rigoureuse. Je voulais juste dire que la rigueur est quelque chose de très variable et flexible, apparemment.
Je répliquerais... crois-tu qu'on a besoin de davantage de mise en contexte?
Non, c'est correct. Là, on parle de la question d'une mosquée Hunsic qu'on cherche à implanter et qu'une majorité de citoyens ont refusé, si j'ai bien compris.
Exactement.
Bon, en d'accord. Chers auditeurs, vous comprenez les grands termes.
En gros, de mémoire, c'est un peu loin dans ma tête. Judith, vous aviez dit à l'époque que c'était une espèce de peur de contre la minorité ou quelque chose de même à l'époque pour dénoncer que le référendum avait finalement barré la route à ce projet de mosquée. Puis moi, j'avais un peu répliqué en citant cette étude, entre guillemets, disant que ça montrait qu'en fait, c'était un quartier qui semblait plutôt multiculturel, multiethnique, mais effectivement, l'étude n'était pas vigoureuse à cause que ça se basait uniquement sur des noms de famille. Puis autant qu'on sache, quelqu'un qui porte un nom de famille qui semble pas Pure Land pourrait bien être ici depuis 3 ou 4, être d'une famille qui
est là. Et inversement, une personne qui a un nom comme Fortin peut être métissée ou arabe. Mais
juste pour dire, je peux comprendre votre souci de rigueur scientifique, puis c'est vrai que je l'ai peut-être pas été tellement dans la boutade que je vous ai lancée sur Facebook à l'époque.
Vous me pardonnerez, chers amis, vous invitez à ne pas régler vos anciennes querelles sur Facebook en ondes. Les querelles sur Facebook sont tout à fait honorables, mais j'ai besoin de les prolonger un an plus tard aux ondes de Radio VM.
Mais je pense quand même que le propos de Judith est très juste, parce que c'est vrai que si on parle de la question de l'usage adéquat des données scientifiques dans des débats sur l'ethnoculturel.
Alors, nous allons à la pause, et nous allons à la pause sur une boutade, rappelons-nous Churchill, qui disait « Il ne faut croire que les statistiques que l'on a soi-même truquées ». Alors, nous revenons après la pause pour une discussion sérieuse sur la question du racisme. Et du...
Radio VM, au cœur de l'essentiel.
Alors, chers amis, nous sommes de retour à La Vie des idées pour cette discussion en ce jour tragique, doit-on le dire, sur la question racisme et discrimination au Québec. Je le rappelle, nous n'avions pas prévu, évidemment, il y a plus de cela, plus d'un mois, quand on a décidé du thème de cette émission, comment pouvait-on prévoir l'horrible attentat terroriste d'hier soir. Donc, nous avons en première partie de l'émission abordé un peu cette question. Là, nous revenons sur le thème à l'origine de l'émission, la proposition d'une commission sur le racisme systémique qui fait beaucoup de débat, la question des discriminations au Québec. Alors, je vous relance sur une question qui me semble assez fondamentale. Quand on entend les critiques sur la question du racisme systémique, je crois comprendre, mais vous me corrigerez, que la simple idée que les institutions collectives soient marquées culturellement, par appelons ça une culture de convergence, une culture historique, la culture, le fait qu'un pays ne soit pas un no man's land administratif, ne soit pas un pur espace juridique Anne historique en sortie de l'histoire, disons ça comme ça. Donc le fait que les institutions soient marquées par une culture, par une langue, une mémoire, qu'elles soient orientées, autrement dit qu'elles ne soient pas neutres de manière, sous le signe d'une forme d'un absolu libéral de la neutralité. Est-ce que je vous comprends bien en disant que pour vous, ça c'est déjà un pas vers une logique discriminatoire à l'endroit des minorités?
Je suis pas sûre de comprendre à quoi vous faites référence, mais...
Par exemple, le fait que la langue française soit la langue de référence ici...
Non, je crois pas que ça fasse partie des préoccupations de la commission, d'une commission sur le racisme systémique. Par contre, quand un journal titre que la langue française est en voie de disparition et se fie sur des études qui s'appuient sur la langue parlée à la maison, c'est clairement...
Pour vous, c'est pas simplement des discussions entre démographes pour savoir quelle est la meilleure manière d'évaluer l'état du français au Québec?
La langue parlée à la maison, ça sera toujours la langue maternelle. Je veux dire, le fait qu'il y ait plus de gens qui parlent français dans les organismes publics ou au travail, pour moi, est un plus grand indicateur. C'est sûr que si j'allais m'installer personnellement en Russie, j'apprendrais le russe. Il y a peu de chances que j'aille m'installer en Russie, ceci dit, parce que je suis illégale là-bas en tant que lesbienne. Mais j'exagère. J'apprendrais le russe. J'apprendrais le russe, mais on s'entend qu'avec ma conjointe, le soir à la maison, je parlerais français. Je me mettrais pas à parler le russe avec mon amoureuse.
Parce que ce que je cherche à comprendre, c'est on dit les institutions favorisent, par exemple, une majorité qu'on avait l'habitude de dire francophone et historique, et que je crois on présente de plus en plus comme blanche et catholique. Ça, c'est un étrange glissement dans le vocabulaire. Donc, qui est cette majorité qui est avantagée en ce moment, et quelles sont les minorités désavantagées, Judith Lucier? Et je vous poserai la même question, Sébastien Bilodeau.
Mais vous parlez des institutions culturelles.
Culturelles, je ne veux pas dire la SEDEC, là, je parle des institutions collectives, mais qui sont marquées par une culture commune.
Non, mais parce que c'est intéressant de s'intéresser aux institutions culturelles. On a parlé, par exemple, des institutions comme le théâtre, où on a on a plusieurs problématiques, mais les pièces qui sont présentées sont majoritairement écrites par des hommes, alors qu'il y a davantage d'auteurs femmes parmi le bassin d'auteurs, il n'y a pas de diversité culturelle au théâtre. Il n'y en a pas. Les communautés culturelles ne peuvent pas s'identifier dans notre théâtre québécois qui ne parle pas d'elles, qui ne parle pas de leur réalité. L'année passée, il y en a eu deux pièces de théâtre. J'allais les voir les deux. Et curieusement, le public de ce théâtre-là était davantage diversifié.
Mais pour vous,
pour
s'identifier à un personnage, il faut que ce personnage ait une commune origine
ethnique
avec moi.
Pas nécessairement.
Par exemple, je ne pourrais pas m'identifier, par exemple, à Nelson Mandela, ou je ne pourrais pas m'identifier à différents leaders de la décolonisation.
Pas nécessairement, Mathieu, mais quand toute la culture est... Quand il n'y en a aucune place pour la diversité culturelle dans le théâtre ou à la télévision. Les acteurs racisés sont tellement marginaux que c'est difficile même pour un jeune de se dire hey, « moi, je pourrais être acteur plus tard si je suis... » c'est difficile pour un jeune des communautés culturelles puisqu'il ne se voit pas, donc il pense probablement... il est amené à penser que ça c'est pas possible pour lui.
Sébastien Bilodeau, est-ce que...
Les modèles, c'est important pour quiconque, là. Je veux dire, si vous n'aviez pas de modèle d'homme blanc qui réussit, peut-être que vous réussiriez moins.
Je reviendrai sur cette question de l'homme blanc qui réussit, mais Sébastien Bilodeau, est-ce qu'on peut dire, selon vous, que les institutions québécoises, culturelles, économiques, au sens collectif, sont-elles, selon vous, biaisées systématiquement à l'avantage d'une hypothétique majorité blanche?
Pas hypothétique, la majorité blanche.
On y reviendra, je vous poserai la question directement, chère Judith.
J'ai un peu de difficulté avec cette notion-là. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on améliore l'intégration socio-économique des minorités ethno-culturelles au Québec. Mais j'ai un peu de difficulté avec la notion de système, non pas parce que je rejette l'existence de notion d'oppression systémique, mais plutôt parce que je suis très marqué par la pensée de Jacques Ellul et aussi de Zygmunt Bauman sur la notion de structure systémique. Dans le sens que, par exemple, Jacques Ellul parle de la notion de technique, puis il fait beaucoup référence à les organisations bureaucratiques. Et ce qui marque les organisations bureaucratiques, c'est qu'en réalité, c'est des entités souvent qui développent une vie propre et sur laquelle le citoyen n'a aucun pouvoir. Par exemple, vous parliez de théâtre. Bon, le théâtre serait surtout joué, écrit par des hommes blancs et créerait principalement des spectacles pour personnes blanches. Mais maintenant, comment est-ce que les citoyens réussissent à avoir un pouvoir sur ce qui se crée ou ce qui se crée pas dans le théâtre? Moi, je crois en réalité que les citoyens ont très, très peu de pouvoir là-dedans, au-delà d'aller ou non encourager par leur billet une pièce de théâtre.
Ouais, mais au-delà de ce que les citoyens peuvent faire, il y a une réflexion qui a été amorcée, qui est nécessaire. Puis c'est le genre de réflexion qui pourrait faire l'objet de cette commission sur le racisme systémique. Il y a des programmateurs de théâtre à conscientiser. Il y a des programmateurs de théâtre qui sont premièrement inconscients du problème, qui en prennent connaissance en ce moment. Il y en a parmi eux qui justifient ce problème-là en disant des choses telles que il n'y a pas de bons acteurs de couleur. Il y a des gens qui justifient cette décision. J'ai lu Lorraine Pintal du TNM dire, par exemple, oui, mais ces gens-là ne vont pas au théâtre. Donc, il y a ces choses-là qui se disent.
Mais j'ai une question pour vous.
Rapide, un autre exemple un peu de système qui peut être oppressant tout en étant hors du pouvoir des citoyens. Un exemple beaucoup plus cruel, c'est par exemple les policiers qui s'acharneraient sur les jeunes noirs à Montréal-Nord, par exemple. C'est un phénomène qui a souvent été décrit et même documenté. Or, c'est un phénomène à combattre, à élucider, mais le fait est, le citoyen moyen ne peut jamais
aider. Mais je comprends pas pourquoi vous arrivez avec cette idée que le citoyen peut rien faire, mais c'est pas ça l'objet de la discussion. Pourquoi vous détournez ça vers ça?
C'est que je crois pas être en train de détourner le sujet, mais c'est que soit dans les discours portant sur qui défendent la notion de racisme systémique, c'est comme si souvent ça semble à un procès de la majorité culturelle.
Mais je pense que parce que vous comprenez mal. Peut-être que je l'ai mal expliqué, mais parce que je suis pas une des porte-parole de ces gens-là qui demandent une commission sur le racisme systémique.
Mais
je fais pas partie de cette organisation.
Permettez-moi de vous poser une question qui me taraude et qui m'obsède. Il y a dans cette présentation des choses, j'entends souvent une majorité blanche. Et moi, j'appelle ça la tentation racialiste de la gauche inclusive. Et je m'explique, et vous me corrigerez évidemment si mon propos ne vous convient pas, ce qui est bien possible. On présente historiquement la société québécoise, on parle de la majorité historique francophone. Donc l'histoire, ce n'est pas la race. L'histoire, c'est autre chose. C'est une production humaine dans l'histoire. On peut s'y agréger, on peut s'y intégrer. Francophone, ce qui distingue le Québec fondamentalement, c'est la langue. Quand vous parlez de majorité blanche, est-ce que, par exemple, vous ne mettez pas dans le même panier les francophones au Québec et les anglophones qui n'ont pas la même histoire et pas eu la même, historiquement, le même avantage, le même accès aux institutions, on pourrait dire, à certains égards, à certains moments de l'histoire? Est-ce que quand vous parlez plus largement de majorité blanche, puis on utilise ce concept-là plus largement en Occident, est-ce que ça consiste pas à mettre dans le même panier des Danois, des Norvégiens, des Français, des Russes, des Québécois, alléluia, choisissez ce que vous voulez, comme si l'histoire et la culture ne comptait plus et que finalement ce qui comptait c'était la couleur de la peau. Moi, quand j'entends cette notion-là de majorité blanche, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'abolir ce qui est spécifiquement humain en l'homme, c'est-à-dire la culture, l'histoire, le politique, et de zoologiser par la bande l'analyse des rapports sociaux?
Ben peut-être. Je suis pas certaine que l'idée que le fait de parler de majorité blanche utile, effectivement, dans le cas qui nous occupe. C'est vous qui avez dit la soi-disant majorité blanche. Je veux juste préciser
c'est une formule qui revient très souvent.
On est en majorité les Blancs au Québec.
Mais vous
avez raison que c'est pas l'outil, le meilleur outil pour aborder cette question-là, parce que je pense que le racisme systémique ne touche pas une communauté. Je pense qu'il touche l'ensemble de la société. Puis vous avez parlé de réalité historique, linguistique, bon, en comparant les Anglais ou francophones, vous avez raison, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même rapport non plus avec les communautés culturelles. Il y a eu des événements qui ont marqué la communauté anglophone de façon différente par rapport aux enjeux raciaux. Ils ont eu, par exemple, les émeutes à Concordia dans les années 70, je pense.
Ah, c'est fascinant, comment dans l'imaginaire contemporain, d'ailleurs, les émeutes de Concordia remplacent les émeutes de Saint-Léonard.
Ça se peut, tout à fait. C'est intéressant comme lecture, mais je pense aussi que la communauté québécoise anglophone est très influencée par la culture américaine. Vous allez être, je pense, assez d'accord avec moi.
Oh, hélas, et même la culture québécoise francophone.
Et sur la question raciale, ont intégré bien avant les francophones au Québec des éléments comme, pour revenir à la culture, le colorblind casting, les anglophones sont en avance sur nous par rapport à ça, qui consiste à faire des castings pour le théâtre ou la télévision ou le cinéma, ou dans lesquels ne sont pas précisés qu'on recherche un caucasien, par exemple. Ou sur la question du blackface, ont été davantage sensibles à cette question-là avant les francophones au Québec. Je pourrais nommer d'autres exemples pour l'instant, qui me viennent pas en tête, mais effectivement, on a un rapport aux questions culturelles qui sont différentes, anglophones et francophones.
Sébastien Bilodeau, est-ce qu'on peut dire que la minorité anglaise est plus ouverte pour différentes raisons aux minorités ethniques que la majorité historique francophone?
Je suis pas en train de dire que les anglophones sont pas racistes. Je pense qu'on l'est tous.
Je comprends que vous disiez que pour différentes raisons qui s'expliquent historiquement, ils seraient plus ouverts au phénomène de la diversité tel que vous le souhaitez.
Une sensibilité qui s'est développée davantage dans le discours avant nous.
Alors, je reprends ma question à peu près dans les mêmes termes. Est-ce que, tout en sachant que tous les êtres humains sont traversés par de vils sentiments, est-ce que vous partagez cette idée que la minorité anglaise au Québec soit plus ouverte à l'endroit des minorités ethniques que la majorité historique francophone?
Écoutez, j'ai pas accès à des données qui pourraient me permettre de trancher pour ou contre la question. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a un peu un effet pervers, justement, par l'influence des États-Unis dans ce débat-là. C'est que souvent, dans beaucoup de discours militants que j'ai vus de conduite chez des militants, j'ai souvent l'impression qu'on voit la récupération de notions utilisées aux États-Unis par rapport à toute la question des discriminations des minorités ethno-culturelles. Et là où je trouve que c'est problématique, c'est que c'est souvent utilisé de façon comme si le Québec était une copie carbone des États-Unis, alors que je pense qu'il y a des différences culturelles significatives entre la société québécoise et la société américaine, et je pense que ça peut brouiller nos analyses par rapport aux difficultés vécues par les minorités ethno-culturelles.
Je vous relance sur cette question qui me semble fondamentale. Dans tous ces débats sur la discrimination, le racisme, les phobies, vous parlez d'américanisation. C'est une chose que j'ai observée aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on transpose assez souvent des catégories qui ont été élaborées à partir de l'expérience américaine, qui est une expérience marquée par le péché originel de l'esclavage, par l'horreur de la ségrégation. Est-ce que la transposition de ces catégories sur nous, est-ce que ça ne déforme pas le regard?
Je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'effectivement, on se retrouve un peu entaché par les crimes américains dans certains discours militants.
Est-ce que vous prenez pour acquis qu'il n'y a pas eu de racisme, d'esclavage au Québec?
Non, nous connaissons très bien les travaux de Marcel Trudel, mais il s'agit d'un phénomène relativement marginal de notre histoire qui n'a jamais eu l'effet de structure, l'effet systématique qu'il y avait aux États-Unis. C'est-à-dire
en même temps, le Québec a été fondé sur la colonisation des peuples autochtones. Je veux dire, non, mais on n'a pas les mêmes propres.
L'expansion européenne, mon Dieu, j'essaie de ne pas trop intervenir, mais vous me permettrez de distinguer néanmoins, Judith, entre la colonisation française, la colonisation anglaise, la colonisation espagnole et la colonisation portugaise.
Ça nous convient de penser que les Français ont été plus doux dans leur colonisation.
Vous me pardonnerez, vous connaissez cette formule, nous vivons à l'époque post-factuelle, alors allons-y avec des faits solides.
J'aurais un commentaire pour répondre à Judith. Je pense faut pas minimiser les horreurs du colonialisme, mais en même temps, je crois qu'il faut aussi éviter d'amalgamer tous les Occidentaux ensemble.
Ce que je suis pas en train de faire, mais parce que vous entendez un discours culpabilisant, mais je veux dire, reconnaître qu'il y a eu des torts qui ont été faits, j'impose à personne de s'auto-flageller, là. Je pense juste qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des torts qui ont été commis. Peu importe par qui, je veux dire, on peut pas dire que le Québec...
Vous croyez que notre mémoire est insuffisamment pénitentielle pour l'instant?
Ben, je pense que il y a un inconfort à reconnaître qu'il y a eu un colonialisme violent qui s'est produit au Québec. Puis je veux dire, les francophones n'ont pas, sont pas dédouanés de ça. Là, je veux dire, les pensionnats autochtones, c'était autant.
C'est pas le gouvernement fédéral par hasard?
Ben, il y a eu aussi, le gouvernement de Duplessis a participé à ça. Je veux dire,
les pensionnats fédéraux, c'est les pensionnats fédéraux.
Oui, mais
Indiens appartiennent comme catégorie politique au gouvernement fédéral.
Oui, mais le clergé catholique très francophone, Mathieu, a participé à ça aussi, là. Je veux dire, on n'est pas.
Je pense. Je dis pas, je suis tout à fait d'accord avec Judith, mais je crois que ce qui serait encore plus important, c'est les problèmes actuels et futurs des minorités ethnoculturelles, dont notamment les minorités autochtones.
Oui, je voulais juste préciser que quand on dit bon que les Américains sont différents de nous autres parce qu'ils ont connu l'esclavage, je voulais juste préciser.
Vous relancez là-dessus. Est-ce que je comprends votre sensibilité pour la question de la mise en valeur de la diversité, la lutte contre les inégalités, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas par ailleurs un phénomène, vous me pardonnerez la formule un peu bancale, mais d'américanisation conceptuelle du Québec? C'est-à-dire, est-ce que, Judith, nous en venons pas à...
C'est possible, mais moi, j'ai aucun malaise avec le fait d'utiliser des concepts qui peuvent nous être utiles ici, que ce soit pour comprendre les inégalités.
Je comprends, mais est-ce qu'on ne plaquerait pas quelquefois des concepts qui ne correspondent pas à notre réalité?
Ben, je pense pas que c'est inutile de le faire. Je pense que si les États-Unis ont été plus sensibles par rapport à des enjeux raciaux avant nous parce que leur histoire leur a permis de le faire, je pense qu'on peut en tirer des leçons pour nous-mêmes. Je veux dire, dans les années 80, il y avait Sesame Street aux États-Unis où on avait... qui faisait... bon, je parle d'une émission pour enfants, là, où on avait un casting très diversifié sur le plan culturel. Puis on se disait, quand on a créé Passepartout, ah, mais nous, au Québec, on n'a pas besoin de faire ça parce que la population québécoise est très différente de la population américaine. Mais c'est comme si on s'était dit, ah, nous, on n'a pas besoin de cette réflexion-là. Mais c'est pas parce que la proportion d'habitants, la proportion de diversité culturelle est moins importante au Québec que c'est moins un problème auquel on doit réfléchir.
Oui, mais je pense que le problème doit être analysé en soi tel qu'il est ici, puis qu'on évite... Tu sais, ça peut être correct qu'on reprenne des concepts, comme vous dites, Judith, des concepts américains, mais je pense que, je renchéris sur ce que tu as dit, faut que ce soit utile et pertinent, et je crois que par moment, ça se peut que ça le soit pas. Mais je dirais qu'il peut avoir un effet pervers aux catégories d'analyse américaine. Comme par exemple, faut pas oublier qu'aux États-Unis, toute la notion d'afro-américain, latino-américain, XY-américain, on est quand même face à une catégorisation de tendance racialiste des humains qui aussi, à mon avis, fait disparaître un peu la variété des humains parce que, je m'excuse, les populations noires, par exemple, c'est des groupes sociaux très variés qui viennent de plein de régions du monde.
Mais c'est un bon exemple, me semble-t-il. Quand on parle des Noirs, me semble-t-il qu'il faudrait tenir compte de que les Haïtiens ne sont pas des Malgaches, les Malgaches ne sont pas des Sénégalais. Puis on peut faire une longue liste. Encore une fois, c'est la question que je posais.
Mais tous subissent l'effet de la racisation.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelquefois, c'est ça qui... il y a dans l'histoire occidentale, on peut prendre les trois cas les pires. Il y a le nazisme. Il y a l'apartheid et il y a la ségrégation, qui sont trois cas de racisme institutionnel effrayant qui visent soit à inférioriser des catégories de la population selon des critères raciaux, soit simplement, dans le cas des nazis, à les faire disparaître simplement. On est dans une logique d'éradication. Donc notre société est parfaitement capable d'être raciste par elle-même, sans aucun doute. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on, croyant combattre le racisme, et puis, par ailleurs, je souligne que nos sociétés ont été capables d'abattre aussi ces choses-là par elles-mêmes aussi. On peut pas... Brian Mulroney, par exemple, a été une grande figure dans la lutte contre l'apartheid, il faut pas l'oublier. Les Américains, c'est des Américains, on pourrait dire... blancs, en guillemets, qui sont aussi battus pour les droits civils. Quant à l'Allemagne nazie, elle a été combattue, à ce que j'en sais, par une bonne partie des Occidentaux.
Mais alors, parler de racisme systémique, c'est pas dire qu'on est tous des mauvaises personnes.
Je n'ai pas dit ça.
C'est comme s'il fallait nous rassurer qu'on n'était pas si mauvais, parce que, tu sais, quand même, Brian Mulroney a travaillé contre l'apartheid.
Non, je dis simplement que le racisme, notre société a été capable d'en générer.
Oui.
Mais dans la lutte contre le racisme, est-ce qu'il n'y a pas quelquefois une racialisation paradoxale et exagérée? gérer des rapports sociaux? C'est simplement la question que je vous posais.
C'est cette réflexion-là qui a mené au terme, à l'utilisation du terme racisé. Parce que justement, parmi les gens qui luttent contre le racisme, ben, la plupart s'entendent pour dire que les races n'existent pas. Donc, mais si on arrête de parler de racisme, le combat, c'est la lutte qui n'existe plus à ce moment-là. Puis, dans le but de ne pas effacer cette lutte-là, le terme racisé a été utilisé pour évoquer le fait que même si les individus n'appartiennent pas réellement à une race, on appartient tous à la race humaine, il n'en demeure pas moins que les individus qui ne correspondent pas à la majorité blanche historiquement chrétienne et...
Majorité blanche historiquement chrétienne. Vous venez d'inventer un concept relativement
avec
étranger
plaisir,
à l'histoire québécoise.
Avec plaisir.
J'essaie de voir qui peut y rentrer dedans.
Majorité blanche. Non,
historiquement chrétienne. Et ce que vous faites disparaître là-dedans, c'est la langue.
Oui, mais
c'est
fascinant. On s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que...
C'est quand même le trait premier pour définir les rapports sociaux
mais
au Québec.
Ce où je voulais en venir, c'est que peu importe comment on les nomme, il y a des personnes qui n'appartenant pas à ce groupe-là subissent des conséquences, des préjugés, de l'exclusion, et c'est pour cette raison-là qu'on emploie le terme racisé.
Mais alors, j'aurais un commentaire.
Allez-y, ensuite je vous relancerai sur la question toute simple, que faire, comme on dit, hein, comme disait Lénine.
Se fouetter longuement.
oui, je crois que vous voulez fouetter généralement, je n'en doute pas, mais...
Je blague.
Bien sûr, je blaguais aussi. Bilodo?
J'ai un peu de difficulté. C'est la notion de personne racisée dans la manière que je la vois être souvent utilisée en ce moment dans les milieux militants, elle me semble être une notion qui devient facilement divisive. Il y a des personnes racisées, il y a des personnes non racisées, il y a des personnes qui oppriment, puis il y a des personnes opprimées, puis tout ça semble jugé spontanément juste par la couleur de la peau, ce qui à mon avis me semble être un abrutissement de l'analyse complet, parce que les réalités vécues par des personnes sont extrêmement variées à l'intérieur d'une couleur de peau ou à l'intérieur d'un sexe.
Mais je pense pas que ça,
quand
c'est
je parlais tantôt des vagues d'immigration, de groupes, différentes populations de couleur noire, on parle de populations qui peuvent avoir des caractéristiques socio-économiques extrêmement variées et que certaines de ces sous-groupes-là sont statistiquement identiques à des groupes blancs, entre guillemets. Tout comme on peut trouver des groupes blancs assez vastes qui vivent dans des situations de très grande pauvreté qui peuvent être identiques à celles des immigrants nouveaux arrivants.
Mais il n'y a personne qui dit le contraire. Je veux dire, il y a personne qui nie... Il y a personne qui réclame une commission sur le racisme systémique en niant le fait que certaines personnes blanches souffrent.
Mais pour
des raisons qui n'ont pas rapport avec leur race.
Cela dit que selon... on peut penser à Christophe Guilly, par exemple, ou Walter Ben Michael. Certains auteurs nous disent à systématiquement s'inquiéter pour certaines minorités qui sont élues par la pensée de l'époque. On en vient à oublier quelquefois, effectivement, on peut penser seulement à des quartiers ouvriers dévastés, à des quartiers, des classes populaires qui ont été un peu abandonnées parce qu'ils ne cadraient pas dans le rôle de la bonne victime, une bonne minorité qui, elle, mériterait nos soins. Ce qui est quand même assez inquiétant. Mais je vous relance sur la question du que faire. Hein? Nous ne nous en sortirons pas. Alors, Judith Lucier, je devine que votre réponse, c'est que faire. C'est lancer une commission sur le racisme systémique. Mais je devine que vous êtes déjà rendu plus loin dans votre réflexion. Que faire pour aller encore plus loin, pour lutter, selon vous, contre ce que vous croyez être un racisme systémique au Québec?
Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de reconnaître qu'on a des biais, je vois pas le mal à reconnaître ses torts. Je vois pas comment on peut se crisper par rapport à ça. Je pense que c'est puéril de se dire « Ah non, moi je fais rien. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis pas raciste. » Je pense que ça ne nous avance à rien. Puis juste le fait de reconnaître qu'il y a un problème va nous aider à identifier des solutions.
Mon Dieu, alors, pour cette intention, ensuite, Sébastien Bilodeau, il y a des difficultés d'intégration de certaines populations issues de l'immigration. Votre explication ne semble pas reposer sur la question du racisme systémique. Que peut-on faire pour améliorer la condition des populations issues de l'immigration?
Pour moi, c'est un fait que les minorités ethnoculturelles, que certaines minorités ethnoculturelles ont des graves difficultés socio-économiques et qu'il faut les régler. Je crois que c'est un problème extrêmement important. Par contre, l'idée de reconnaître qu'on a inconsciemment ou consciemment des biais, pour moi, c'est de la pure psychothérapie. Ça s'adresse uniquement aux sentiments qu'on a par rapport à nous-mêmes. Ça me semble pas très utile à aider les minorités à se ressortir de la pauvreté.
Je pense que ça peut nous permettre de compenser.
Mais imaginons, Judith, je vous pose une question vous nous dites qu'il n'y a pas de mal à reconnaître ses torts, mais imaginons que quelqu'un, au terme d'un exercice lucide d'autocritique, vous dise « Je regarde l'histoire du Québec, je regarde la sociologie du Québec, je regarde notre situation, et au terme de cela, je ne me reconnais pas dans le portrait du racisme systémique. » Et je crois que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos concitoyens qui se sont posé la question que vous voulez qu'ils se posent, mais ils en arrivent à une autre réponse. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème, il est là? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire un exercice autocritique pour se judith luciriser. On peut, au terme de tout cela, se dire, ben franchement, non, ce concept n'est pas le bon.
Mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça vous prend de plus pour reconnaître qu'il y a des problèmes. Je veux dire, on les voit, les injustices, il y en a.
Qu'il y a des inégalités... Qu'il y a des injustices.
C'est plus difficile pour quelqu'un qui s'appelle Mohamed de trouver un logement. Si on ne voit pas de problème là-dedans.
Qu'il y a des difficultés pour certaines
J'aurais quelque chose à rajouter.
Pardonnez-moi, je ne suis que l'intervieweur. Sébastien Bilodeau.
La question est fondamentale de l'émission et sociale, problème social, c'est question que faire. Ben, moi, je crois, c'est de faciliter la reconnaissance des diplômes des populations immigrantes.
Ça, c'en est une solution.
C'est d'améliorer les ressources qui, en ce moment, à mon avis, sont insuffisantes pour favoriser la francisation et l'intégration des populations immigrantes. C'est en gros qu'on soit prêt à déployer les moyens financiers et sociaux pour que les immigrants puissent s'intégrer et réussir. Et moi, je pense que l'idée de reconnaître qu'on a des biens inconscients, ça me semble être une chose au maximum très petite dans l'équation, parce qu'à mon avis, la question, c'est la condition socio-économique.
Mais moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est fondamental, et après ça, les mesures viennent. Je pense que ce que vous proposez, ça demeure des solutions, effectivement, qui sont porteuses, mais qui sont, je veux dire, si on reconnaît pas qu'il y a un problème, qu'il y a des biais, comment on va en venir à ces solutions-là?
Je pense pas que les gens...
On pourrait dire que des problèmes d'intégration des populations immigrantes, donc dans la question de la non-reconnaissance des diplômes, on pourrait dire dans certains cas, ben oui, on a devant un problème de corporatisme des ordres professionnels. Donc on peut dire on veut régler ce problème-là avec cette mesure-là, sans pour autant l'intégrer dans une explication globale sur le racisme systémique des Québécois, vous croyez pas?
Mais vous pensez pas que ce problème corporatif découle d'une forme de racisme?
Alors, je vous peinerai, chère Judith, je ne le pense pas du
tout. J'en doutais, effectivement.
Est-ce qu'il nous reste environ... Oh mon Dieu, nous arrivons au dernier moment et j'ai eu le dernier mot. Vous me pardonnerez, c'était même pas un mauvais coup que je vous faisais. Judith Lucier, Sébastien Bilodeau, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui, en cette journée par ailleurs difficile. Nous offrons nos dernières pensées, bien évidemment, aux victimes de l'attentat terroriste de Québec hier soir. Merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui et je l'espère à une prochaine fois.
Plaisir.
Merci.